Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers collègues également, bonsoir. C'est à moi qu'avait eu l'honneur de présenter conférencier de ce soir. Avant de vous présenter, j'avais besoin de vous dire qu'est-ce qui faisait qu'on avait déplacé quelqu'un du sud de la France. Alors, quand je dis nous, c'est l'équipe de la formation coaching, accompagnement individuel et conduite d'équipe qui est composée de Marc Wallenbach, Geneviève Tchoprivalski et Marty Thiebaud et moi-même. Au moment où on a construit la formation et qu'on a cherché à mettre en place un référentiel de compétences, on a essayé de regarder ce qui existait déjà. Et puis on en a découvert deux. Un, celui de mon collègue Marc Thiebaud, et puis un deuxième de la Société française de coaching, la SF Coach, dont M. Bial était impliqué avec un groupe de travail. Parallèlement, son dernier bouquin sur l'accompagnement professionnel venait d'être publié, alors à son bras s'est dit que c'était nécessaire qu'on le rencontre. Pour vous parler de M. Bial, ce qui me semble important de dire ici dans ce contexte de l'HEP, c'est que M. Bial a enseigné pendant 10 ans. Donc le milieu de l'enseignement y connaît. Actuellement, il est professeur des universités, habilité à diriger des recherches et responsable d'un master mission et démarche d'évaluation qui a deux filières. Une première, coaching, qui correspond à l'accompagnement individuel, et une filière, consultant d'organisation, qui correspond à l'accompagnement collectif. Vous trouverez des informations détaillées sur son parcours sur son site, www.michelbial.com. Voilà, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une soirée riche et intéressante et à laisser la parole à M. Bial.
Bien, merci de m'avoir invité. C'est toujours avec plaisir que je viens voir tout ce côté-ci de la frontière. Donc, je ne suis pas professeur des universités, comme c'est enregistré, je tiens à le signaler. Je suis maître de conférence, mais j'anime un groupe de recherche qui s'appelle le GRAP, groupe de recherche sur l'accompagnement professionnel. Et je suis donc directeur de recherche, j'ai une dizaine de thésards qui travaillent sur l'accompagnement. On vous a signalé donc mon site personnel michelbial.com sans majuscule d'ailleurs. Je voudrais dire deux mots aussi de l'autre adresse qui est là, réseaueval.com, puisque c'est une association dont je suis le président, qui a été créée par des anciens étudiants, des DESS comme on disait à l'époque, qui sont aujourd'hui devenus des masters. Et c'est une association où se retrouvent des professionnels de l'évaluation pour réfléchir sur leur pratique. On m'a demandé de parler de l'accompagnement professionnel suite à la parution du bouquin chez Debout que j'ai écrit avec Nicole Mencassi, qui est une de mes élèves, aujourd'hui maître de conférence à l'UFM de Nice. Alors c'est un peu difficile pour moi de trier pour ne parler que pendant une heure. Voilà, le bouquin est long, et puis j'ai l'habitude de faire des cours de 8 heures sur l'accompagnement, donc j'ai préparé 3 points, mais peut-être que j'en ferai que 2. On verra. Alors, je vais partir du mot accompagner, qui est ce qu'on appelle un parasynthétique, qui a cette particularité d'avoir un radical déjà composé de compagne que l'on retrouve dans copain aujourd'hui. Alors, les gens qui ont commenté l'accompagnement, puisqu'il y a fort longtemps que beaucoup de textes paraissent sur l'accompagnement quand même, ont tous, à mon avis, commis une erreur linguistique en ne prenant pas en compte suffisamment le préfixe « ac ». Ils font comme si le verbe « accompagner » c'était le verbe « compagner ». Or, le verbe compagner n'existe pas. On dit faire compagnie ou être de compagnie. Le préfixe ac veut dire aller vers. Il désigne un mouvement, une dynamique, une chose en train de se faire. Accompagner, ce n'est pas être copain, ce n'est pas être compagnon. C'est le temps pendant lequel on pourra peut-être être compagnon. C'est être de compagnie pour un moment précis, pour une durée déterminée. Au bout de cette durée, peut-être qu'on deviendra compagnon. C'est donc ce qu'on appelle chez nous un processus, c'est-à-dire une dynamique en train de se réaliser. Accompagner, c'est donc se joindre à quelqu'un pour aller où il va. Et la langue populaire, ordinaire, confond souvent accompagner et conduire. J'accompagne mon fils à l'école. Si je suis le seul à connaître le chemin, alors c'est conduire mon fils à l'école. En revanche, si je prends le trajet pour aller à l'école comme un temps où on va se parler et où je vais faire en sorte qu'il devienne un élève et qu'il ne reste pas un enfant seulement, alors accompagner mon fils à l'école veut dire quelque chose. Alors cette différence subtile entre accompagner et conduire est fondamentale. Accompagner ne se soucie pas de l'endroit où on va. Ce qui compte, c'est le chemin qu'on est en train de faire. Accompagner, c'est donc être avec ici et maintenant. Voilà une citation d'un coach. Ah, pardon. Que je trouve résumé assez bien l'accompagnement. Donc l'accompagnateur stimule sans jamais précéder, il suscite, favorise ou éprouve, mais à l'épreuve, hein, la réflexion du sujet. Nous sommes les seuls aussi à avoir relié la notion d'accompagnement à la notion d'étayage. L'accompagnement n'est pas le grand mot, la grande boîte. L'accompagnement est une des deux boîtes à l'intérieur de l'étayage. Étayer quelqu'un, c'est le soutenir dans son propre développement. Et il y a pour ça deux façons différentes de le faire. Soit on guide quelqu'un vers un but que l'on a prédéterminé, soit on l'accompagne. Alors, l'étayage, quand on parle d'étayage, il faut l'entendre à trois niveaux. Au niveau social, cognitif et psychique. Et nous avons travaillé à ces trois niveaux-là. On s'étaye aux autres par la culture dans laquelle on est formé. Ça, c'est l'étayage social. On s'étaye aussi pour apprendre. On ne peut apprendre qu'étayer. On apprend des autres. On ne pense qu'à partir de la pensée des autres. Ça, c'est l'étayage cognitif. Et enfin, Freud a très bien parlé des objets d'étayage qui sont nécessaires au développement psychique du petit humain. D'abord, le premier objet d'étayage, c'est le sein maternel. Ensuite, c'est la mère qui berce et qui chantonne. Et enfin, quand le temps sera venu de se séparer d'elle, il faudra trouver ailleurs d'autres objets d'étayage. Et c'est une quête qui accompagne, qui constitue le développement humain du début à la fin de sa vie. Autrement dit, l'étayage est une nécessité à trois niveaux, social, cognitif, psychique. Ce n'est pas une lubie, l'étayage, c'est là, c'est ce qui fait qu'on passe de appartenir à l'espèce homme pour devenir humain. Autrement dit, il était gage et absolument nécessaire dans la relation éducative. En particulier, toute relation humaine est faite d'étayage, toute relation professionnelle est faite d'étayage, et toute relation éducative est faite d'étayage. Alors, l'accompagnement, ce n'est pas le guidage, c'est le contraire du guidage. C'est un type d'étayage particulier qui se fait dans l'estime de l'autre. Alors là, je fais référence à un texte ancien des années 70 de Daniel Hamelin, de l'estime. Un très beau texte, très bien écrit et très poétique sur l'évaluation à l'estime et dans l'estime. Dans la familiarité, il ne peut pas y avoir d'accompagnement sans confiance, sans relation débarrassée de ce qu'on a l'habitude d'appeler le jugement de valeur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de débat, qu'il n'y ait pas de contradiction ou de controverse. Tout le monde ne peut pas être accompagné. Ça, c'est ce que nos études de cas des pratiques nous ont montré. Il y a des gens qui sont tellement déstructurés, qui ont besoin d'abord d'être apprivoisés. Ils se sont mis en marge, ils se sont mis à l'extérieur, ils sont porteurs de stigmates tels que l'accompagnement n'est pas possible directement avec eux. Il faut d'abord faire un travail préalable tout particulier qui consiste à leur redonner de la forme, à leur redonner de la consistance. L'accompagnement ne peut se faire que si on parie sur les possibles de l'autre. Si on ne peut accompagner que si on est persuadé que l'autre va arriver à changer et à devenir de plus en plus autonome. Quand un diagnostic a été posé sur quelqu'un et qu'il est en dépendance, il ne peut pas être accompagné, il sera pris en charge. La prise en charge, qui est une procédure et une pratique tout à fait honorable, n'est pas l'accompagnement. En revanche, elle peut déboucher ensuite, plus tard, sur un accompagnement. Alors, être avec, c'est partager des expériences. Attention au mot partager, il ne faudrait pas croire qu'on vit la même expérience. C'est pas parce qu'on fait des choses ensemble qu'on vit la même chose. Chacun a son chemin, l'accompagnateur a le sien, l'accompagné a le sien. L'accompagnateur a un travail qui doit favoriser le chemin de l'autre, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la même expérience. Chacun son expérience, chacun sa place. Alors j'insiste sur l'accompagnement ne peut pas être fait sur des jugements de valeur, sur des étiquetages, sur des mises en boîte, sur des labels, sur des tests, sur des diagnostics. Ces pratiques sont étrangères à l'accompagnement. On prend les gens comme ils sont et simplement on assure qu'ensemble on va aller un peu plus loin. Alors dire que l'accompagnateur est en retrait, qu'il n'est pas sur le devant de la scène, mais que c'est l'accompagné dont on s'occupe. Ça ne veut pas dire que l'accompagnateur ne sert à rien. Il est bien là pour donner son avis, pour dire ce qu'il en pense, pour proposer des pistes de réflexion ou des pistes d'action. Donner son avis, c'est toujours le donner à questionner, à débattre. Ce n'est jamais le donner comme étant le seul et le seul faisable. autrement dit, l'accompagnateur est garant d'un processus d'arrimage. Alors, arrimage dans du réel, arrimage dans une institution, quand on accompagne les managers qui sont plus ou moins en souffrance, par exemple, parce qu'ils savent qu'ils vont être virés. On appelle ça l'accompagnement vers la sortie. Il faut les réancrer dans l'utilité sociale. Voilà, ça c'est un exemple. Quand on accompagne aussi des élèves en difficulté, on est là pour les arrimer au scolaire. Moi, l'accompagnement qui m'intéresse, c'est l'accompagnement professionnel, c'est-à-dire un accompagnement où un des deux est désigné par une institution comme étant accompagnateur. Il a une mission d'accompagner l'autre. Je ne réfléchis jamais sur les pratiques privées d'accompagnement ou sur certaines pratiques marchandes, puisque le mot coaching aujourd'hui est employé pour tout et n'importe quoi, y compris pour relooker quelqu'un, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'accompagnement dont je parle en tout cas. Donc on est toujours dans une institution quand on parle d'accompagnement professionnel. Il s'agit bien d'une sorte de métier, on va y revenir, où l'un des deux est désigné comme garant d'un dispositif dit d'accompagnement. Donc la fonction de ce dispositif, c'est l'arrimage dans l'institution dont on parle. Alors je reprendrai la formule de Kant qui a été vulgarisée au bon sens du terme par Jean-Marie de Pétel dans un de ses textes, hein, l'ami critique. L'ami qui est aussi exigeant, mais il est exigeant pour l'autre. L'ami qui va ne rien laisser passer, qui va ne pas être complice de l'objectif de son client, comme on dit dans le milieu du coaching. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se laisse pas embarquer immédiatement parce que veut faire l'accompagner, mais qui d'abord essaie d'explorer des pistes, de lui faire explorer d'autres pistes, jusqu'à ce qu'il prenne lui-même la décision d'en choisir une. Donc l'ami critique, ça me paraît bien résumer la totalité de l'attitude de l'accompagnateur. Alors, comme j'ai travaillé depuis fort longtemps sur les pratiques d'évaluation, bien sûr, j'ai d'ailleurs relu mes premiers textes en évaluation, c'est-à-dire ma thèse de 91, et le mot accompagnement y était, et je l'avais oublié. Parce qu'à l'époque, en 91, l'accompagnement, c'était du n'importe quoi, c'était pas du tout la mode, il fallait pas en parler, mais je l'avais glissé quand même dans un chapitre fondamental de ma thèse, fondamental pour moi, évidemment. Et comme quoi, je me suis dit qu'il y a une cohérence qui se construit sans qu'on le sache. 20 ans après, pratiquement, je reviens avec ce mot-là. Alors, pourquoi ? Parce que je suis parti des travaux d'Arduino et de Berger sur les deux types d'évaluation, l'évaluation contrôle et l'évaluation interprétation. Et j'ai travaillé ces notions-là, j'ai continué leur travail, si on peut dire. Et donc on se retrouve, au bout du compte, avec deux logiques d'action possibles en évaluation. La logique du contrôle, qui sert à rendre des comptes, à stabiliser, à faire des bilans, à comptabiliser, à rendre consistant. L'intérêt du contrôle, c'est qu'il rend les choses consistantes. Il les stabilise. Et puis, il y a une autre logique. Alors, le contrôle et le guidage, c'est bien sûr le même du dodo et des bretelles. On ne peut guère être dans le guidage si on n'est pas dans le contrôle, par définition. Alors que dans l'accompagnement, on est là pour promouvoir les possibles de l'autre. On est là pour développer, aider à maturer, faire que l'autre chemine. On est là pour valoriser, pour soutenir et t'aider dans le sens de « tu vas trouver ton chemin ». Alors, la chose essentielle dans la logique de l'accompagnement, qui est donc pour moi une logique de l'évaluation, au même titre que le contrôle, c'est simplement son contraire, c'est que le but appartient à l'accompagné. Le critère distinctif fondamental, ce serait celui-là. On n'est pas dans l'accompagnement si on a un but pour l'autre. On est là pour faire que l'autre trouve son but. Ce qui implique d'accepter une certaine imprévisibilité, puisque on ne sait pas à l'avance quel sera ce but que l'autre va choisir. Ce qui nécessite de l'accompagnateur, ce que beaucoup de formateurs ne savent pas encore faire, c'est-à-dire gérer de l'improgrammable, faire avec le non programmé, le non programmable, la chose que l'on ne peut pas prévoir. Autrement dit, faire de l'imprévisibilité, de l'imprévisible tout simplement, ou de la surprise, la valeur fondamentale de la relation à l'autre. L'essentiel, c'est jamais ce que je prévois pour l'autre. L'essentiel, c'est ce qui va naître de notre rencontre. L'accompagnement est une rencontre avec l'autre. Et comme dans toute rencontre, le grand danger que court l'accompagnateur ou l'accompagnement, c'est la fusion entre les deux protagonistes. Alors, l'accompagnement n'est pas un métier. On n'est pas arrivé à en faire un métier. Je sors d'un gros projet européen, un projet Leonardo, sur la validation des acquis de l'expérience. Et le ministère du Travail qu'on a rencontré, avec qui on a travaillé dans ce projet, a totalement refusé de faire de l'accompagnateur VAE un métier. Alors je pense qu'il y a des questions économiques derrière, parce qu'à partir du moment où les gens sont dans un métier, il faut prévoir une filière de formation, l'organiser, il faut prévoir une grille de salaire. Bon, ça complique beaucoup les choses au ministère, quoi. Donc non, l'accompagnement, ça ne sera pas un métier. Les ministères du Travail s'y opposent. Ce n'est qu'une fonction. Alors, ça permet évidemment de faire de l'accompagnement à n'importe qui. Bien sûr. Et parfois sans aucune formation préalable. On prend un formateur d'adultes qui passe bien, comme on dit, et pof, la fée clochette passe, et il devient un accompagnateur de n'importe quoi, y compris dans la VAE. Au mieux, on lui fait 3 jours de formation à l'entretien d'explicitation de Vermeersch, et puis voilà, c'est bouclé. Alors, tout ça n'est pas sérieux. Les fonctions se préparent au même titre que les métiers. Et il serait temps qu'on revendique des formations sur les fonctions et plus seulement sur les métiers. Alors, c'est plus qu'une fonction, c'est une mission. C'est-à-dire que tous les accompagnateurs qu'on a rencontrés, et même ceux avec qui on n'était pas d'accord, ont une façon de dire que ce rôle-là d'accompagnateur est un engagement. Un engagement en termes de valeur. Tous les gens qui se réclament de l'accompagnement le font pour le bien de l'autre, en gros. Donc on est bien dans la mission, au sens presque religieux du terme. En tout cas, c'est une pratique qui est orientée par des valeurs qui se veulent humanistes, au moins dans leur déclaration, sinon dans leur réalisation. Après, c'est ce qu'on appelle une posture. Alors, la notion de posture, c'est l'idée que il y a du jeu à tenir, hein, et pas simplement une question d'authenticité. Voilà. Le mot authenticité ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je le trouve sec et desséchant. Sous ses apparences de bonhomie, il cache souvent le contraire, beaucoup d'égoïsme et peu de générosité. Donc il ne s'agit pas d'être authentique. On est bien dans un rôle professionnel. On a un rôle à tenir. C'est ça que veut dire la notion de posture. On a des repères à prendre pour avoir une attitude spécifique. Et ça se travaille. La posture se travaille à partir d'un système de repérage, et c'est ce à quoi servent les référentiels de compétences, évidemment, puisque tous les référentiels aujourd'hui ne sont que de compétences. C'est pas la peine de dire à chaque fois référentiel de compétences. Donc, les référentiels servent à donner non pas le droit fil de ce qu'il faut faire, comme on l'a cru dans les années 70, mais un ensemble de points de repère que le professionnel doit à chaque fois actualiser en fonction de son contexte, doit concrétiser dans les situations qu'il vit. Et donc, c'est pas parce qu'on a un référentiel qu'on a les réponses. On a simplement des espèces de clignotants qui peuvent s'allumer au cours de sa route et qui nous permettent d'être vigilants. On ne croit plus aujourd'hui que les référentiels sont faits pour être suivis à la lettre, ils sont faits pour être interprétés par les acteurs. Ça s'appelle la réflexivité dans l'action, ou l'auto-évaluation d'ailleurs. Alors, c'est donc un processus, c'est-à-dire c'est une chose en train de se faire et qui est intéressante parce qu'elle est là en train de se faire et non pas parce qu'elle va arriver quelque part et non pas parce qu'elle va produire quelque chose. Ce qui est intéressant dans la notion de processus, c'est de déconnecter le moyen de la fin et de sortir du fonctionnalisme ambiant ou qui voudrait qu'on ne fait jamais rien que pour obtenir quelque chose. Eh bien non, l'accompagnement ne fonctionne pas comme ça. On fait des choses parce qu'on pense qu'elles sont bonnes à faire, qu'elles sont intéressantes pour l'accompagner, et non pas pour produire un effet. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que l'accompagnement ne produise pas d'effet, bien évidemment. Il en produit, et parfois des effets tout à fait inattendus, qui n'appartiennent pas à sa sphère d'action. Mais on n'est pas là pour créer des effets, on est là vraiment pour le être avec, être ensemble et avancer. Alors, il y a une formule, enfin, toutes les formules qui utilisent le mot accompagnement sont piégées. J'en ai recensé une dizaine dans le bouquin. Et peut-être la moins pire, c'est accompagner en quelque chose. À condition que le en veuille dire à l'occasion de cette chose. Alors, par exemple, l'accompagnement en insertion. C'est un accompagnement qui va se faire à l'occasion de la recherche d'emploi. Ce n'est pas... Donc c'est un accompagnement qui se fait dans un dispositif d'insertion, et ce n'est pas pour trouver un emploi. Alors ça, c'est très dur à faire comprendre aux gestionnaires, aux payeurs, aux décideurs, à tous ces gens-là qui ont les cordons de la bourse. Ils ont complètement intégré le schéma moyen-fin, le fonctionnalisme, et pour eux, le pendant n'a strictement aucun intérêt, ce qui compte, c'est l'effet produit. Et ouais, mais ça ne marche pas avec l'accompagnement. Je répète, l'accompagnement n'est pas orienté vers une fin. L'accompagnement est un processus en train de se faire. Maintenant, quand on trouve un emploi, quand on a un accompagnement en insertion, bah oui, pourquoi pas. Enfin, on ne va pas rechigner, on ne va pas on ne va pas le refuser, quoi, hein, c'est un effet intéressant. Mais dire que l'accompagnateur n'a pas fait son travail parce qu'au bout de tant de temps, un accompagnateur, l'accompagné n'a pas trouvé d'emploi, ça, c'est pas du jeu. Là, on confond le guidage et l'accompagnement. Si on veut mener les gens vers l'emploi de façon plus ou moins obligatoire, alors il faut les guider vers l'emploi et arrêter de dire qu'on les accompagne. Alors, l'accompagnement, ça peut être deux choses. Soit un dispositif entier, avec un début, une fin, et on a même repéré des phases qui peuvent le constituer. C'est le cas, par exemple, du coaching individuel, de l'accompagnement de managers, autrement dit, enfin, l'accompagnement des cadres, même, pour parler français complètement, voilà. Puisque le mot coaching a été traduit par nos amis québécois par le terme accompagnement, donc ça c'est clair. Manager, on sait très bien que c'est une façon jolie de dire cadre, et décideur, voilà. Donc dans l'accompagnement des décideurs individuels, alors en face à face, hein, pas en collectif, là il y a un dispositif qui a été mis au point et qui existe dans la littérature professionnelle de cette niche-là, avec un début, une fin, des étapes. Mais ça peut être aussi, et ça on l'a découvert en faisant le bouquin, en assistant à des séances de pratique, et notamment d'enseignement, ça peut être simplement des moments d'accompagnement dans, je dis, des îlots d'accompagnement dans un océan de guidage. Et là, ça pose plein de problèmes, parce que les moments d'accompagnement sont totalement impromptus. La plupart du temps, ils prennent au dépourvu tout le monde, aussi bien l'enseignant que l'élève. L'élève, ça fait 3 fois qu'il a une demande. Ça fait 10 fois qu'il essaie de dire quelque chose et on ne l'entend pas. Et puis un beau jour, on l'entend et on lui répond et on dialogue avec lui. Et personne, jusqu'à présent, et on fait des recherches sur ça en ce moment, compris pourquoi ce jour-là, l'enseignant change d'attitude. Et au lieu de considérer sa demande comme du bruit qui parasite le cours de la classe, il prend le temps, ce jour-là, d'avoir un entretien impromptu et qui peut durer quelques minutes seulement, hein, et qui va faire cet entretien que l'élève ne posera plus cette question-là, n'aura plus cette demande-là, il aura vu différemment son problème, et les enseignants savent faire ça très bien. Mais la plupart du temps, ce sont des habiletés qu'ils ont acquises dans l'expérience, et ils ne les reconnaissent même pas. Il faut qu'on les filme et qu'on leur montre le film pour qu'ils disent « Ah ben oui, je sais faire ça ». Quand on leur dit comme ça, tout à trac, c'est pas quelque chose qu'ils ont consciemment dans leur répertoire de gestes professionnels, alors qu'en fait, ils savent le faire. Alors, c'est vrai qu'il y a des conditions particulières, hein. Il faut savoir avoir un entretien individuel dans un collectif, c'est une compétence qu'on n'a pas appris aux enseignants. C'est-à-dire, je ne prends pas l'élève pendant la récréation tout seul dans ma classe. Non, pendant la classe, quand les autres sont là, j'ai un entretien individuel avec lui dans la classe. Ça, c'est une compétence sur laquelle il faudrait, à mon avis, entraîner les enseignants, notamment les débutants, ils sont toujours trop souvent dans leur face-à-face avec le collectif et ils ne savent pas traiter des demandes individuelles dans le collectif. Hein, ils opposent le collectif et l'individuel alors qu'on peut très bien faire les deux. Il y a des enseignants qui savent parfaitement le faire. Donc les moments d'accompagnement, c'est des moments où tout d'un coup, celui qui était le guide change de casquette et arrête son char pour voir si au bord de la route il n'y aurait pas de quoi satisfaire entre guillemets la demande de l'autre. Voilà. Très souvent, c'est une urgence qui fait qu'on se dit ça aujourd'hui, il ne faut pas que je le rate. Alors attention, c'est pas forcément des choses gentilles qu'on dit dans l'accompagnement. Ça peut être aussi, aujourd'hui, je me le cadre celui-là. D'accord ? Ben oui, l'accompagnement, c'est aussi ça. C'est pas forcément passer de la pommade, l'accompagnement. Valoriser quelqu'un, c'est pas forcément être gentil avec lui, c'est être en face de lui et de le considérer comme une vraie personne avec qui on discute. Le dialogue, c'est la base de l'accompagnement. L'entretien, le dialogue, considérer l'autre comme pouvant entendre certaines choses, y compris des choses désagréables, à un moment donné, j'en dirais plus plus loin. Alors, toujours quand on définit un champ qui n'est qu'un sous-champ, hein, parce que je vous rappelle que dans les TIH, il y a le guidage et l'accompagnement, on est obligé de forcer un peu le trait et puis pour trouver la spécificité du sous-ensemble, on est obligé de dire ce n'est pas l'autre sous-ensemble. Alors, je vais sacrifier ce travers de la rationalité. Hein. Donc, ce n'est pas un travail d'expert, ce n'est pas un travail de conseiller. Le conseiller, il est là pour donner la bonne information, la bonne voie. Il est là pour faire le choix des informations qui sont utiles. En fait, il est là pour construire le problème de façon que ce problème puisse être résolu. Bon, bref, pour qu'il y ait une solution. Le conseiller prend le problème pour le résoudre. Ensuite, il dit ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. On appelle ça les préconisations. Il apporte des solutions et parfois il n'en apporte même qu'une, avec l'obligation d'avoir à la mettre en acte. En fait, c'est donc un travail de sachant, de conseil, et ça n'a rien à voir avec l'accompagnement. Ce n'est pas non plus une transformation et ce n'est pas une formation. Alors, je sais que trop souvent, on a dit que la formation était faite pour transformer les gens. Ça a même été un slogan de l'Académie d'Aix-Marseille dans les années 70-80. Il y a un petit problème quand même. Alors, l'accompagnement permet de promouvoir le changement qui est déjà là. Quand on fait le pari que quelqu'un va y arriver, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il est déjà en changement. Et c'est la grande différence avec l'expert qui lui apporte le changement, comme si les gens n'étaient pas dans le changement. Alors, on n'a que à amplifier la dynamique qui est déjà en place. On n'a pas à la créer dans l'accompagnement. Et au passage, je vous rappelle qu'on ne transforme pas les personnes. Les personnes ne sont pas des états. Les personnes sont des dynamiques. Une personne est faite pour évoluer, elle est dans l'évolution. Ça n'existe pas, quelqu'un qui n'évolue pas. Ou disons que celui-là, il relève du thérapeutique, et pas de la formation. Donc on ne transforme que le métal, que les matières, hein, la chimie, s'occupe des matières, pas des êtres humains. Les êtres humains, tout ce qu'on peut faire, c'est faciliter leur développement, faciliter la dynamique dans laquelle ils sont déjà. Alors que, quand on est dans le guidage, on regarde les autres dans, comme s'ils étaient des objets, et on veut les promener, on veut les emmener quelque part, on veut les modeler, on veut les façonner, on veut les faire, la plupart du temps, à son image. L'accompagnement, lui, ne mélange pas les genres. Il n'y en a qu'un qui doit changer, c'est la compagnie. Alors, si l'accompagnateur change, c'est de surcroît, c'est du bénéfice, c'est en plus, voilà. Mais il n'est pas payé pour changer. Hein. Il est quand même payé pour que l'autre change. Décider d'accompagner quelqu'un, c'est donc faire le pari qu'il va pouvoir changer avec nous, par le soutien, par l'étayage qu'on va lui apporter. Mais pour ça, il faut arrêter de croire qu'on apporte le changement, hein, cette forme de toute puissance qui consiste à croire que l'on est à l'origine du changement de l'autre, est totalement étrangère à l'accompagnement. En revanche, l'accompagnement va se greffer sur le changement pour l'amplifier, pour le faire fermenter, pour le travailler. Et le travailler, on peut l'entendre à tous les sens du terme, c'est-à-dire une évolution plus ou moins laborieuse qui peut faire plus ou moins souffrir, ou bien une mise à l'épreuve de diverses solutions, de diverses pistes, jusqu'à ce qu'un effet se fasse. Alors là, je vais m'appuyer sur un vieux bouquin de Mireille Cifali, C-I-F-A-L-I, qui s'appelle « Contre-jour psychanalytique », et qui est déjà un vieux bouquin, mais il n'a pas pris une ride. Et en tout cas, ça devrait être un incontournable de la formation des enseignants, à mon avis. Parce que la relation thérapeutique est en train de charmer tout le monde en ce moment. On est en train d'entrer dans une médicalisation de l'enseignement qui, à mon avis, est grave, puisque ça se fait au détriment de la relation éducative. La relation éducative n'est pas la relation thérapeutique. Et il faut apprendre à les différencier. Alors, l'autre n'est pas à refaire, il n'est pas contrefait, il n'est pas à restaurer, il n'est pas à réparer, il n'est pas à remédier, il n'est pas à refaire. L'autre, il est en train de changer et il a des possibilités. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'il trouve sa réponse. Alors, qu'il trouve sa solution à lui. On n'est pas là pour lui donner du savoir savant, on n'est pas là pour le former, ça n'empêche pas, au fur et à mesure qu'on donne son avis, de distiller du savoir. Ça fait pas de mal, quoi. Hein. Si on en a, autant le donner. C'est fait pour ça, le savoir. Il faut le redire quand même, c'est pas fait pour être stocké, le savoir, c'est fait pour circuler. Voilà. Alors, en général, quand on donne un avis à quelqu'un, on le donne à partir d'un savoir. Et en donnant son avis, on donne le savoir. Mais on n'est pas là pour faire que l'autre mémorise ce savoir-là. On n'est pas là pour qu'il nous le récite. On est là pour qu'il en fasse quelque chose, pour qu'il se l'approprie, pour qu'il le travaille, lui, dans son univers à lui, pour en faire son chemin à lui. Alors, autrement dit, l'accompagnement ne peut pas être que cognitif. L'accompagnement n'a de sens que si, dans l'accompagnement, se pose d'une façon ou d'une autre une interrogation sur l'existence. Autrement dit, si dans l'accompagnement, on se pose des questions insolubles qui sont les questions essentielles de l'être humain, et non pas, et on n'est pas là pour résoudre des problèmes. On a mieux à faire. Là aussi, le fonctionnalisme ambiant nous fait croire que la vie, c'est des problèmes à résoudre. C'est faux. Les problèmes essentiels n'ont pas de solution. Ils n'ont que des façons de les formuler qui les rendent acceptables. On a à habiter les problèmes essentiels et non pas à les résoudre. L'accompagnement vise ce type de problème. Si on veut résoudre des problèmes, on fait du guidage. L'existence dont on parle, on va l'aborder par l'entrée professionnelle. On est dans une institution, on travaille avec des gens qui ont un rôle professionnel à tenir. On n'est pas là pour mettre notre nez dans leurs petites affaires privées. On n'est pas là pour résoudre leurs problèmes d'ordre privé. Mais vous savez très bien que les personnes ne se découpent pas en rondelles et que quand elles ont un problème, elles apportent tout, le privé et le public. Alors se cacher derrière son petit doigt en disant « moi je m'occupe que du public », eh ben, ça peut durer un certain temps jusqu'au jour où vous rencontrerez quelqu'un qui vous apporte un énorme problème où tout est lié, où vous serez bien obligé de vous en occuper. Voilà. On a à apprendre tout ce que l'autre apporte, même si on n'est pas là pour faire de la thérapie, même si on n'est pas là pour faire de la psychanalyse. Toutes ces choses-là ne sont pas de l'accompagnement professionnel, mais on ne peut pas vouloir n'avoir affaire qu'à des problèmes simplement professionnels. Les problèmes professionnels sont souvent l'endroit où on rejoue des problèmes beaucoup plus profonds. Et les problèmes relationnels au travail sont souvent l'endroit où s'expriment des problèmes qui durent depuis beaucoup plus longtemps. Alors, on entre par le professionnel et puis on chemine comme on peut dans ce maquis-là, quitte à dire à quelqu'un en cours d'accompagnement, là, ce dont on est en train de parler, c'est pas de mon ressort, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas psychanalyste, va donc consulter quelqu'un d'autre que moi. Oui, ça on peut toujours le faire. Peut-être pas comme ça, mais on peut le faire. Il y a une façon de le dire. Voilà. Il n'empêche que dans l'accompagnement, il faut s'attendre à avoir de la substance, du vital. Il n'y a pas d'accompagnement stérilisé et propre. Alors, pourquoi ? Parce que ça va être l'occasion, et croyez-moi, les gens saisissent cette occasion-là, de ce qu'on appelle le remaniement identitaire, c'est-à-dire d'une recomposition de son identité, où le psychique est engagé, qu'on le veuille ou non, et en ce sens, tout travail d'accompagnement débouche, qu'on le veuille ou non, sur un travail sur l'imaginaire, et pas seulement sur la rationalité. Alors je dis que les gens saisissent les occasions du remaniement identitaire parce que souvent ils n'ont pas eu le temps de s'y intéresser autant que ce qu'ils auraient voulu. Voilà. Il y a une espèce de frustration avant qu'ils arrivent et quand ils ont compris que dans l'accompagnement ça pouvait se parler, le problème c'est de les arrêter à l'endroit où on n'est plus compétent. Voilà. Donc, il faut s'attendre, c'est un peu comme si les barrages lâchaient. Il y a une déferlante d'affectifs, de relations plus ou moins mal vécues qui sortent. Il est de plus en plus le symbolique se signale. Voilà. Le symbolique, c'est tout simplement là où les choses signifient et non pas là où elles se font. Il faut avoir une petite formation en psychanalyse, non pas être psychanalyste. La psychanalyse, c'est un référentiel théorique comme les autres, qui s'apprend comme les autres. Ce sont des textes, la psychanalyse. Oui, je dis qu'on ne peut pas faire de l'accompagnement si on n'a jamais lu une ligne de Freud. Oui. Je ne dis pas qu'il faut faire une cure. Encore que, ça c'est votre problème, quoi, pas le mien. Mais on ne peut pas faire comme si la psychanalyse n'existait pas, même si on va le traiter comme tous les référentiels théoriques, on va le cadrer, on va le maintenir dans un espace particulier. Il ne s'agit pas de devenir un adepte de la psychanalyse, on ne vous en demande pas tant. Mais on ne peut pas faire de l'accompagnement si on n'a jamais lu Freud. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est net. Alors, trajet et trajectoire, ce sont deux mots que Jacques Arduano a travaillé dans. Vous le trouverez dans son recueil d'articles, Les avatars de l'éducation, publié en 2001. À l'Harmattan, mais c'est un recueil d'articles fort anciens. Alors, je crois cette distinction importante, parce qu'elle résume un peu tout ce que j'ai dit. Alors, le trajet, c'est la ligne droite, c'est le voyage que fait la balle pour atteindre la cible. La trajectoire. La trajectoire, c'est la ligne droite, c'est comment atteindre un but qu'on s'est prédéterminé en économisant ses forces. Voilà. Le trajet, c'est le chemin que l'on fait et qui peut aboutir là où on avait prévu d'aller, mais pas obligatoirement. Vous savez, après tout, il y a deux façons de préparer ses vacances. Il y en a qui s'y prennent 3 mois à l'avance, qui font le tour de toutes les officines pour avoir le billet le moins cher, parce qu'ils veulent aller à tel endroit et y rester le plus longtemps possible. Voilà, eux, ils sont dans la trajectoire. Et puis, il y a ceux qui partent au dernier moment en se disant, bon, on va à Rome, ouais, et puis s'arrêtent à Milan, et puis ils sont très bien à Milan, et ils passent toutes leurs vacances à Milan. Ça, ceux-là ont fait un trajet. La trajectoire, c'est le domaine des fonctionnalistes, des rationalistes plus ou moins obsessionnels, ceux qui sont dans le schéma moyen-fin. Hein, les moyens ne comptent que si, par eux, on obtient une fin. Alors, dans les trajets possibles, il y a la notion de cheminement. Un cheminement, on s'en aperçoit au fur et à mesure qu'on le fait. Un cheminement, ça ne se prévoit pas. C'est à partir de ce qu'on a fait, on se retourne et on se dit « ouais, j'ai cheminé ouais. ». On ne part pas pour cheminer. Ça n'a pas de sens. On part. Et puis, il se trouve qu'au bout d'un certain temps, on a cheminé. Un cheminement, l'intérêt de ce mot-là, c'est qu'il implique la notion de sujet singulier, de gens que l'on prend dans leur spécificité et avec qui on a envie de faire des choses. L'accompagnement, c'est un cheminement organisé qui est déclenché par une situation problématique. il y a des cheminements qui ailleurs ne sont pas organisés, ils sont impromptus et qui ne se font pas forcément sur des situations problématiques. Ce qui caractérise l'accompagnement, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui coince quelque part, alors on se décide à se faire accompagner ou on est en demande d'accompagnement et on attend que l'autre en face, quel qu'il soit, prenne cette demande. Donc il y a toujours quelque chose de l'ordre du problématique qui fait qu'on va pouvoir se rencontrer. Quand on dit problématique, on ne veut pas dire un problème à vie. La problématique, on peut en changer, on en change d'ailleurs régulièrement au cours de son existence, heureusement, sinon ça se soigne. On ne parle pas de la problématique au sens thérapeutique du terme. On parle de quelque chose qui, à un moment donné, gêne. Il y a une gêne au départ de l'accompagnement. Et c'est cette gêne qui va favoriser, qui va être l'occasion de la rencontre. Alors, puisque cette gêne est apportée par l'accompagné, l'accompagnement ne peut pas avoir de discours général sur les gènes possibles. Ce dont on s'occupe, c'est bien de la gêne que l'autre apporte à un moment précis de son histoire. Alors, le maître mot de l'accompagnement, c'est être capable de s'inventer des histoires. L'accompagnement est de l'ordre du fictionnel. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens dans l'accompagnement vont faire des récits de vie, des autobiographies, etc. Mais sans ça, même sans ça, on peut le faire par oral, dans l'entretien. Mais on est là pour se reconstruire une histoire, pour s'inventer une histoire dont on est le héros, une histoire qui nous portera, qui portera l'accompagné plus loin que là où il en est. Autrement dit, on est en plein travail sur les mots, sur le langage et sur l'imaginaire. Et c'est premier. Le matériau avec lequel on travaille, c'est le langage. Les faits, les expériences ne sont intéressants que s'ils donnent lieu à un discours. Alors, quelle heure c'est ? 10h30 déjà ? Mm-hmm. Alors je vais aller très vite pour les trois processus imbriqués. Alors, trois processus imbriqués obligatoirement dans l'accompagnement : la problématisation, l'orientation par l'action et la référenciation. Alors, la problématisation, c'est l'art de construire des problèmes en les étoffant, en multipliant les points de vue, en élucidant des zones d'ombre, non pas pour trouver une solution à tout craint, mais pour avancer dans la compréhension du problème. Alors, ça s'apprend à problématiser, ça s'apprend à suggérer des points de vue différents à l'autre. Ça s'apprend à mettre en dialectique les éléments du problème, le tout étant de construire non pas une solution, mais une avancée dans la compréhension du problème. L'idée dans la problématisation, c'est tout simplement qu'un problème, quand il est travaillé, quand il est problématisé, il devient, au bout d'un certain temps, habitable. Il devient supportable et on passe à un autre problème. Mais on n'a peut-être rien résolu, mais au moins on sait vivre avec. Ouais. Le processus d'orientation par l'action, c'est l'idée que on n'a pas devant soi une action, un dispositif dans lequel on avancerait. C'est parce qu'on agit que l'on s'oriente. Alors, c'est donc une conception tout à fait contraire à celle des cognitivistes, notamment de Savoyant et compagnie, qui ont toujours pensé l'action rationnelle et pouvant être rationalisable et donc prévisible. Dans l'accompagnement, cette action rationnelle, elle est très peu importante. L'action dont on parle dans l'accompagnement, c'est une réaction à ce que dit l'autre. L'accompagné parle, on réagit, et il réagit, et on avance comme ça. Voilà. On avance à l'estime, donc je l'ai déjà dit, on avance à tâtons, on avance en élucidant, c'est-à-dire en éclairant l'endroit où on est, mais quand on est passé, ça redevient noir, comme quand on s'éclaire à la bougie. Élucider, ce n'est pas l'éclairage au néon, hein. Ça c'est la rationalité et la résolution de problèmes. L'élucidation, c'est pas à pas, on comprend mieux là où on en est. Alors, c'est le rôle de l'écoute dans l'accompagnement. L'écoute n'est pas faite pour poser un diagnostic. L'écoute n'est pas faite pour interpréter des signes et décréter que l'autre a telle maladie, comme dans la relation thérapeutique. L'écoute est faite pour comprendre comment on peut avancer, comment on peut aller plus loin dans la compréhension du problème. Alors, on parle de double écoute parce que l'accompagnateur doit à la fois s'écouter et écouter l'autre. Il n'est jamais seulement dans l'écoute de l'autre, il est aussi dans sa propre écoute. Et ça, c'est une compétence qui est beaucoup plus difficile à acquérir qu'une simple technique. Ce qui est en jeu dans l'orientation, c'est toutes ces compétences incorporées, comme on les appelle maintenant après Yves Schwartz, toutes ces choses qui relèvent de la ruse, du kairos, c'est-à-dire de l'intelligence rusée qui consiste à saisir l'occasion favorable, ou de la métis qui consiste à ruser pour arriver à ses fins. Il y a donc des habiletés en situation incorporées qu'il faut pouvoir appeler en situation d'accompagnement quand on est accompagnateur. L'accompagnement est une véritable expérience et pas simplement une technique. L'outil principal de l'accompagnateur, c'est le questionnement qui permet de provoquer et de proposer des pistes de travail à l'autre. Sachant que, bien sûr, la décision reste à l'accompagné à chaque fois. Alors, la référenciation, c'est l'ensemble des références nécessaires pour tenir dans la posture d'accompagnateur. L'accompagnateur n'a pas de grille, il n'a pas de checklist, il n'a pas des questions toutes prêtes, il n'a pas besoin d'outils préfabriqués. En revanche, il a besoin d'avoir tout un ensemble de concepts qui lui permettent de se repérer dans ce qui est dit et dans ce qui est fait avec l'accompagné. Ces références engagent la personne qui les porte et ça va bien au-delà des valeurs. Ça va dans ce qu'on appelle le travail sur soi épistémologique, c'est-à-dire le travail sur soi qui consiste à se donner des cadres de référence théoriques, du concept. Voilà. L'outil de l'accompagnateur, c'est le concept. Les concepts sur qu'est-ce que la relation éducative, les concepts sur qu'est-ce que l'évaluation, les concepts sur qu'est-ce que le psychisme, les concepts sur qu'est-ce que le social, qu'est-ce que l'imaginaire, qu'est-ce que le cognitif, j'en passe. Et puis après, il y a les référentiels, hein, j'en ai déjà parlé, qui servent à se demander, qui servent à fabriquer son chemin par rapport aux étoiles. C'est comme des étoiles dans lesquelles on lit pour construire son chemin. Le chemin n'est pas dans le référentiel, mais le référentiel est nécessaire pour choisir sa route. S'orienter dans l'accompagnement, c'est faire un travail d'évaluation situé, c'est-à-dire que l'accompagnateur est en perpétuel travail d'évaluation de ce qui se passe. il doit inventer au fur et à mesure des critères situationnels. Et c'est l'objet de la supervision. La supervision consiste à verbaliser les critères situationnels que l'on s'est donnés pendant l'accompagnement. Alors, en conclusion, cette citation de Henry Case, un livre très important pour l'accompagnement, l'organisation en analyse, parce que il faut que j'ajoute que l'accompagnement dont je viens de parler n'est pas forcément fait en individuel, il peut être fait en collectif. On peut accompagner un groupe, pas simplement accompagner quelqu'un. Alors, c'est le cas d'Henry Case, qui travaille dans des entreprises, par exemple, pour accompagner des groupes. Et je trouve que là, il a bien mis des mots sur l'essentiel de l'accompagnement, hein, l'ouverture de l'autre, qui est toujours un travail lacunaire et inachevé. On est là pour faire que les autres deviennent progressivement autres et qu'on est là pour les délivrer du fantasme de la toute-puissance. Ce qui veut dire qu'on ne s'improvise pas accompagnateur, il faut une formation solide qui ne peut pas être une simple formation instrumentale. Merci. Alors, il était prévu que le reste du temps, on ait le temps de dialoguer. Y a-t-il des questions? Qui pose la première question?
Vous avez parlé de moments d'accompagnement dans des pratiques de guidage. Est-ce qu'il y a aussi des moments de guidage dans des pratiques d'accompagnement? Et si oui, à quelles conditions pour ne pas pervertir le dispositif, la relation, la posture?
Alors, non, la réciproque n'est pas vraie. Un dispositif d'accompagnement où il y aurait des moments de guidage n'est pas un dispositif d'accompagnement. C'est du n'importe quoi et de l'incompétence. Ça existe. Alors, notamment, très souvent, les gens qu'on a étudiés qui sont dans ce cas-là, ne savent pas résister à la demande de guidage de l'autre. Ils n'ont pas appris à transformer la demande de guidage en demande d'accompagnement. Ils se contentent de répondre et de satisfaire l'autre. C'est pas ça l'accompagnement. Donc une des compétences de l'accompagnateur, c'est savoir transformer l'attente ou la demande de guidage en accompagnement. Et si on n'y arrive pas, on dit, mon coco, je ne peux pas t'accompagner. Va donc te faire guider ailleurs. Alors, c'est dur de résister à la demande de guidage. C'est tellement narcissisant d'être pris pour le guide de l'autre. Ça fait tellement plaisir. On se sent tellement nécessaire quand on guide les gens. C'est dur de dire non. Ça s'apprend. J'ai répondu à votre question. L'accompagnement, c'est pas valorisant. d'ailleurs regarder dans quel mépris sont tenus les accompagnateurs par les décideurs. On leur donne toutes les poubelles de la société à trier. Actuellement. Vous êtes d'accord avec ça quand même? Quand on ne sait plus quoi faire, on dit on va accompagner. Quand tout a échoué, on va les accompagner. Ben oui. Peut-être que c'est pas ça l'accompagnement, quoi. Et peut-être que dans tout ce qu'on a fait auparavant, s'il y avait eu de l'accompagnement, on n'en serait pas là. On est en train de faire jouer à l'accompagnement la quatrième roue du carrosse, quoi. Hein. Quand le guidage échoue, alors on appelle l'accompagnement au secours. Ah non, non. Si on inversait un peu ces choses-là, si d'abord on faisait de l'accompagnement avec les gens avec qui on peut en faire, d'abord, eh bien peut-être que ça marcherait mieux. Donc aujourd'hui, faire de l'accompagnement, c'est pas narcissisant, hein, c'est pas valorisant. Vous êtes le pompier de service.
Vous dites que faire de l'accompagnement nécessite une formation. C'est quoi comme formation?
Ah, ben, c'est avant tout une formation à la relation éducative. D'abord. Ensuite, c'est une formation qui permet la construction de cette matrice de référence dont j'ai parlé à la fin. La matrice de référence théorique qui permet de savoir ce qu'on fait et d'être vigilant sur les dérives. Voilà. Ce n'est pas une pratique assurée, l'accompagnement. C'est pas quelque chose, c'est pas une autoroute sur laquelle on entre et puis ça y est, on peut dormir. C'est une pratique de vigilance en permanence. C'est une pratique d'évaluation en permanence. Et pour faire ces choses-là, il y a des savoirs nécessaires. Plusieurs évaluations sur.
C'est beaucoup. Faire ça, ça a été compliqué parce que les cartes de référence sont informatiques.
Oui, oui. Oui, mes étudiants travaillent beaucoup. Alors, j'ai résolu le problème en leur disant, moi, je vends du tissu au mètre et même au kilomètre. Et vous, vous triez là-dedans ce qui vous paraît pertinent par rapport à votre projet. Et après, le référentiel de certification me déborde. Il y a des choses qui sont acceptables au bout de l'année et d'autres qui ne le sont pas. Il y a certains, si vous voulez, à certains niveaux qu'il faut avoir. Il y a un SMIC, quoi. Il y a un minimum vital sans lequel on n'a pas le diplôme. Voilà. Et donc, il y a des gens qui se font une garde-robe entière. Avec 10 costumes, 15 paires de chaussures, ils sont boulimiques. Et puis, il y en a d'autres, ils partent avec un string. Mais il y a des endroits où ça suffit. C'est pas à moi de décider de leur projet. Alors moi je ne les forme pas à entrer quelque part. Tout à fait différent quand on forme des enseignants, puisque là on les forme à entrer dans une institution particulière pour des missions qui sont prédéfinies. On a un horizon de contrôle qui est clairement dessiné. Ce n'est pas le cas dans les masters. Je forme des gens qui peuvent travailler dans des secteurs tout à fait différents. Mais enfin, c'est une grosse année, quoi. Il y en a qui prennent une année de plus. Mais c'est possible dans les masters, hein. On peut faire un semestre un an et un semestre l'année d'après, et en fait ils travaillent les deux ans. Comptez sur moi. Euh, qui sont importants pour l'opérationnalité de l'étudiant. C'est-à-dire que selon le bagage avec lequel il arrive, il deviendra très vite ou moins vite opérationnel. En revanche, la culture qu'il apporte n'a pas tellement d'importance chez des gens qui viennent de la comptabilité, du droit, de la gestion. Mais en général, s'ils viennent dans ces métiers-là, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol de la gestion de la comptabilité. Hein. Ils veulent en sortir. D'accord ? Donc, ils sont mobilisés pour acquérir une culture qui est avant tout une culture des sciences humaines. Et ça marche, il y a des gens, en un an, ils acquièrent de quoi tenir la route sur le terrain, alors qu'ils viennent d'autres cultures que celles qui sont nécessaires. Mais ils sont motivés, comme on dit. En général, ça correspond à une réorientation professionnelle.
Sur la question de métier ou fonction, c'est une question qui m'interpelle beaucoup, notamment par rapport à la professionnalisation des acteurs dans les métiers des relations humaines. Puis dans un autre groupe de projets, on se pose exactement la même question, et vous avez donné le point de vue du ministère, mais vous, le rôle. Parce qu'à quelque part, je me dis, si c'est pour reporter la quarantaine, alors effectivement, vous pouvez rester sur une fonction, mais si on va partir avec beaucoup plus, peut-être qu'on a peut-être intérêt à accepter un métier et que ce soit donc
Alors, les gens qui partent avec un string et reviennent en général dans la formation continue, ils reviennent dans les associations comme Réseau Eval, ils tiennent pas longtemps, ils s'enrhument. Mais pour moi, la professionnalisation, c'est avant tout un processus de formation particulier qui implique la réflexivité, l'auto-évaluation, savoir mettre des mots sur ce qu'on fait, savoir identifier ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça l'essentiel de la professionnalisation. C'est, comme a dit l'autre, développer le pouvoir d'agir. Que ça se solde par un statut, c'est mieux. C'est mieux, mais ce n'est pas l'essentiel. Le projet Leonardo dont j'ai parlé, c'était professionnaliser les acteurs de la VAE, le titre du projet. Et il a fallu expliquer, y compris à nos partenaires suédois, par exemple, qu'on n'entendait pas créer un métier avec une échelle indiciaire, etc. Créer un corps professionnel. Professionnaliser, pour eux, c'est créer un corps professionnel. Non, c'est pas ça. D'abord, c'est d'abord former les gens d'une certaine façon professionnalisée. Pour moi, c'est plus important, ça. Après, ils se battent pour avoir les statuts qui correspondent à leur formation. C'est leur boulot de se battre pour ça. Les infirmières chez nous, ils sont bien arrivés. Mais c'est parce qu'on avait déjà commencé à les former autrement. Donc, nous, notre travail, c'est de les former. Après, eux, ils revendiqueront, ils se battront. C'est dommage, on aurait gagné du temps si le ministère avait été un peu plus souple, mais visiblement, ils ont déjà tellement de corps de métier à gérer que les bras leur en tombent, quoi. Ils s'économisent, ce qui est... Ils économisent aussi de l'argent, évidemment. Tant qu'il n'y a aucun diplôme, par exemple, niveau de diplôme exigé pour être coach... N'importe qui, du jour au lendemain, peut prendre sa place et se déclarer coach, sans aucune formation. De la même façon, n'importe qui peut se dire accompagnateur VAE. Alors là, le ministère, il a bien joué quand même, hein, parce que vous pouvez toujours vous dire accompagnateur VAE, mais il faut être agréé. pour faire des accompagnements VAE, il faut être agréé chez nous, en France. L'État a donné ce marché à quelques grandes boîtes qui ont ratissé tout le marché, l'ont organisé. Et il faut être labellisé par ces boîtes pour pouvoir exercer. Et dans le label, il n'y a pas le diplôme. Il y a des soi-disant compétences qui sont testées, je ne sais pas trop comment. Mais pour nous, formateurs, la professionnalisation, c'est un registre de formation, c'est un modèle de formation, avant tout. Donc que le social ne suive pas, ce n'est pas notre problème. Nous, on a à professionnaliser nos clients qui sont les formés, les étudiants. Après qu'ils se débrouillent. On ne peut pas épouser tous les problèmes de toute la chaîne, quoi. Chacun son problème. Une dernière question.
Moi, personnellement, c'est peut-être par rapport aux médecins ou aux psychologues. Est-ce que vous pensez qu'au fond, les médecins, les psychologues qui ont une étiquette médicale peuvent apporter un service d'accompagnement en étant.
Oui, s'ils se forment.
Pardon.
S'ils se forment. Le jour où Dieu acceptera d'être formé.
La question, elle est aussi par rapport à l'étiquette qui est perçue, des amalgames entre accompagnement et médicalisation, si l'accompagnement est donné par ces personnes-là, malgré le fait qu'elles sont formées.
Alors, il y a le médecin, c'est plus rare. Encore que les médecins qui travaillent avec les incurables se sont formés à l'accompagnement. Alors, très souvent sur le tas, par expérience, sans trop savoir ce qu'ils font, mais on en a suivi et je peux vous dire qu'il y a des gens qui font vraiment de l'accompagnement, bien qu'ils soient médecins. Parce que quand on est médecin, rien ne vous prédispose à l'accompagnement. Mais alors, rien. Seulement, un médecin, quand il est devant un public incurable, est en échec. Et cet échec leur a permis de développer d'autres compétences que les compétences thérapeutiques. Les psychologues, c'est pareil. Les psychologues, quand ils s'aperçoivent que leur batterie de tests ne servent strictement à rien pour certains clients et qu'ils s'intéressent à ces clients-là, eh bien, ils développent des compétences d'accompagnement, bien qu'ils soient psychologues.
Vous avez cité la psychanalyse comme une référence essentielle. Et puis, j'ai l'impression de deux façons d'utiliser la psychanalyse, de la comprendre. Une façon qui est passablement influencée par la psychiatrie et qui vise à développer un savoir sur l'autre à travers les interprétations. Et une autre façon de comprendre la psychanalyse qui ne s'apprend, à mon avis, pas que par les textes, et qui est de comprendre la psychanalyse comme avant tout l'émergence d'une parole. Donc quelque chose où le savoir sur l'autre n'a pas de sens, et qui serait peut-être plus proche de l'accompagnement. Comment est-ce que vous préconisez à la fois ce référentiel comme important et que vous arrivez à travailler ça, j'imagine, avec vos étudiants?
À vrai dire, ce référentiel n'est pas plus important que d'autres. Simplement, comme il sent encore le souffle, je me sens obligé d'accentuer sur cette chose. Parce que je sais que ça fait encore peur à beaucoup de gens. Je sais que pour beaucoup de gens, la psychanalyse, c'est tabou. C'est réservé à je ne sais pas qui, c'est pas pour eux, voilà. les mêmes qui vont faire des statistiques d'ailleurs, hein, ou qui vont faire de la linguistique à tout craint. La linguistique, c'était pas fait pour vous non plus, hein. Bon, pas plus que la psychanalyse. Donc, j'accentue sur la psychanalyse parce que je crois qu'il y a à la déboulonner d'un certain nombre de représentations imbéciles. Voilà. De gens qui en ont ou trop peur, ou bien qui en attendent trop. Bon, donc il faut ramener la psychanalyse à l'état de référentiel théorique qui dit des choses qu'elle ne dit nulle part ailleurs. On ne peut pas s'intéresser au symbolique, au psychisme, et ne rien connaître en psychanalyse. C'est tout. C'est tout. C'est une évidence. Simplement, comme ce n'est vraiment pas une évidence pour beaucoup de gens, je me crois un peu obligé de militer à cette chose-là. Alors, après, il en est de ce référentiel-là, comme des autres référentiels. Les textes sont fondamentaux, d'ailleurs, tous les fondamentaux partout en sciences humaines sont des textes, avant d'être des personnes ou des idées. C'est d'abord des textes. Quand on dit fondamentaux en sciences humaines, on parle de textes. Non, le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces textes. Autrement dit, comment on les travaille et comment on se travaille avec. Mais ce n'est pas plus vrai de la psychanalyse que du reste. Ce que j'ai appelé le travail épistémologique sur soi, c'est ça. C'est se travailler à partir de textes. Et non pas travailler le texte comme s'il était extérieur à moi. Hein, mais bien, ce texte-là, qu'est-ce qu'il dérange chez moi et pourquoi ? Et qu'on essaie un peu de comprendre pourquoi, dans ce texte-là, j'ai envie de ne rien prendre. Et dans l'autre à côté, de tout prendre. Donc, en formation, il y a un gros travail à faire sur la lecture. Lire, ce n'est pas reconnaître ce qu'on sait déjà. Lire, c'est justement s'intéresser à ce qui résiste. Ça, c'est le postulat de base. Un livre est intéressant quand justement j'y comprends rien. Si j'y comprends tout, c'est que j'avais pas besoin de le lire. Comment, à partir du texte, faire que les gens s'approprient les idées et se construisent avec, mais ça, c'est le dispositif de formation. Enfin, pour moi, la formation, c'est ça. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas de la formation. Bien. Eh bien, je vous remercie de votre écoute.